Actualité pour commencer, actualité des industries culturelles et du numérique. On part au Royaume-Uni ce soir, on parle Brexit, on parle aussi l'Écosse et de l'Union européenne. Comment elle va évoluer dans ce secteur. Emmanuel Paquette, pour commencer, le Brexit, qu'est-ce que ça peut changer pour nous autres Européens, du côté des Européens? Quelles en sont les conséquences à court ou moyen terme, ou en tout cas de ce qu'on peut à ce stade imaginer?
Alors déjà, c'est une différence de traitement des directives européennes qui ont été votées précédemment à la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, et notamment l'une d'entre elles, une des directives droits d'auteur qui a été votée l'an dernier, qui doit être transposée dans les différents pays européens. Et l'Angleterre donc a annoncé qu'elle ne transposerait pas l'article 13. Alors cet article 13 de la directive droit d'auteur aujourd'hui, c'est un article assez important puisqu'il oblige les plateformes, donc en grande partie YouTube, SoundCloud, Dailymotion et d'autres, à mettre en place des filtres afin que quand des internautes veulent diffuser des contenus sous copyright, sous droit d'auteur, ces contenus-là soient repérés et soient bloqués avant même de pouvoir être diffusés sur ces plateformes. Donc l'article 13 doit être transposé d'ici l'année prochaine dans la plupart des pays, et l'Angleterre a dit que il ferait fi de cet article-là. Boris Johnson avait déjà dit que c'était une atteinte contre la liberté d'expression sur Internet, donc il s'y était déjà fermement opposé, et maintenant il a annoncé qu'il n'y aurait pas de transposition en loi anglaise. Donc ça, c'est un des premiers cas concrets du Brexit, et le fait qu'en réalité, il y aura du coup un droit d'auteur à deux vitesses entre l'Angleterre d'un côté et le reste de l'Union européenne de l'autre.
Alors peut-être un complément direct sur le fameux Brexit culturel dont beaucoup discutent et que beaucoup déplorent déjà, qui suit effectivement cette question-là. Les premiers en fait à avoir fait des grandes tribunes, c'était essentiellement les acteurs de la scène musicale en Grande-Bretagne, qui utilisaient déjà cet argument, à savoir que sur la question du droit d'auteur, il peut y avoir une bifurcation des deux côtés. Or, sur les droits d'auteur, c'est quelque chose qui évidemment les intéresse. Alors en fait, il va y avoir des conséquences déjà, et qui ont déjà commencé à avoir lieu depuis 2 ans, autour des discussions sur le Brexit, sur, disons, les industries culturelles britanniques, puisque les Britanniques font partie des premiers à avoir commencé à compter combien leur rapportent les industries culturelles. Culturel qui est en croissance, 2 fois plus en croissance que le reste de l'économie britannique. Et donc, ça risque d'impacter les gens à plusieurs niveaux. Les artistes, avec cette question des droits d'auteur, qui, mine de rien, est compliquée pour eux, avec les échanges sur les maisons de disques. Gros problème, surtout, la tournée. On parle souvent ici, à Softpower, de la manière dont la valeur s'est déplacée dans le milieu de la musique. Et pour les tournées, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les Anglais, pour les Britanniques, pardon, faut vraiment qu'on utilise ce terme à chaque fois, de tourner. Pas évidemment pour les grandes stars, mais toute la scène indépendante londonienne qui fonctionne très bien, qui vient en festival. Il va y avoir des problèmes de paperasse, il va y avoir des problèmes de faire venir les équipes, de bouger du matériel. C'est pas énorme. Et de visa. C'est pas énorme, mine de rien, ça complique les choses. Et les festivals pourraient avoir tendance à programmer moins de Britanniques qu'auparavant, se contenter en gros des têtes d'affiche. Donc ça, c'est concrètement les personnes. Même chose pour évidemment le personnel des musées, des orchestres symphoniques. Vous savez que la Grande-Bretagne a de nombreux orchestres symphoniques. 1 musicien sur 5 des orchestres symphoniques britanniques sont non britanniques, en tout cas, et la plupart sont européens, donc là aussi, question de contrat de travail. On a évoqué la question aussi de la très forte attraction des écoles d'art britanniques, la St. Martin's School, la Central, le Royal College, qui sont aujourd'hui complètement leaders sur des domaines comme le design, comme la mode. Là, pareil, question, on est toujours avec effectivement des prix très importants pour ces études, mais est-ce qu'on va pouvoir avoir des visas étudiants? Est-ce que ces étudiants pourront jouir des bourses qui leur permettent aujourd'hui de venir? Quand vous êtes un Français, ça coûte très cher, mais vous pouvez bénéficier des bourses au même titre que les Britanniques. Est-ce que ça sera le cas? Pour le moment, ces questions-là sont toujours pas tranchées. Et puis, il y a la question des financements, très bêtement. Alors, il faut se dire que le Royaume-Uni a très peu investi la question de la culture, parce qu'on le sait, la culture est un peu le parent pauvre de l'UE. Il n'y a pas énormément d'argent dédié à la culture, mais il y a quand même ce programme Creative Europe qui en fait a donné 90 millions d'euros, donc à peu près entre la période 2014-2020 à l'Angleterre. Ça se joue à plusieurs niveaux, sur les musées, ça se joue sur les projets dits de coopération. Autre problème, cette idée de Creative Europe, elle est aussi importante sur des espèces de contrats globaux qui s'appliquent à l'échelle l'Union européenne, on en a parlé souvent ici, ça se joue par exemple dans le cinéma pour des contrats de tournage. Game of Thrones a été tourné quasiment intégralement en Europe, en Espagne, à Malte et au Royaume-Uni, avec une espèce de baisse générale des impôts et contrat global européen. Est-ce que Game of Thrones aujourd'hui, post-Brexit, aurait été tourné aussi en Grande-Bretagne? On n'en est pas sûr du tout. En tout cas, c'est pas clair parce que c'est un accord qui s'était décidé au niveau européen. Et puis, par ailleurs, ça c'est la vraie question, et c'est même plutôt une question, on va dire, politique, conceptuelle, intellectuelle, c'est quand même la fin d'une certaine forme de coopération culturelle, notamment entre les musées. Ça rend les échanges un peu plus difficiles, ça rend les idées un peu plus difficiles. Et tout ça, il faut le dire, s'inscrit dans une baisse drastique des crédits budgétaires accordés en Angleterre aux institutions muséales, aux institutions musicales, qui ont perdu, on va dire, plus de 200 millions de dollars au cours de la décennie qui s'est écoulée. Et en fait, on avait plein de partenariats relativement importants entre des musées français et anglais, des musées français et anglais et allemands. Et toutes ces coopérations-là vont être plus difficiles avec le Brexit. Donc, c'est pas vraiment de l'argent qu'on perd, mais c'est une forme de manque à gagner sur des coopérations qui n'auront plus lieu.
Emmanuel Paquette.
Alors, il y a dans toutes ces nouvelles, en fait, où il y a beaucoup d'incertitudes encore sur l'impact que va avoir le Brexit sur les industries culturelles, il y a quand même deux bonnes nouvelles pour l'Angleterre. La première, c'est les chiffres diffusés par le British Film Institute sur l'état des investissements étrangers pour le soutien au film en Angleterre qui a enregistré un record en 2019, c'est-à-dire 4,7 milliards de dollars d'investissement en croissance de 16%. Rien que les investissements internationaux, ça représentait 3,9 milliards dans ces 4,7. Et dans ces 3,9 milliards, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le prochain James Bond, qui a été tourné en partie à Londres, donc Mourir peut attendre. Le film 1917 de Sam Mendes, qui a été tourné en partie, pareil, en Angleterre. Tenet, le prochain Christopher Nolan, qui va arriver d'ici peu sur les écrans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Angleterre, puisque les investissements d'Hollywood arrivent fortement sur le territoire britannique.
En même temps, ils arrivaient déjà. Il y avait déjà un lien un peu, je dirais, extra-européen, exactement, historique entre les États-Unis, mais, évidemment, et l'Angleterre.
Évidemment, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un système fiscal avantageux pour tourner des films là-bas, et que maintenant, l'Angleterre va pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut de sa politique fiscale, va pouvoir permettre de faire des investissements encore plus incitatifs.
D'où la crainte d'avoir une sorte de petit Singapour, en l'occurrence même de grand Singapour, au nord de la France et au bord de l'Europe.
Exactement. Il peut y avoir une forme de dumping fiscal, en tout cas dans certains domaines, et notamment le domaine culturel. L'autre élément maintenant qui est aussi un petit peu plus, dont on y voit un petit peu plus clair, c'est sur les plateformes de SVOD, donc du type Netflix, Disney Plus et Apple TV Plus. Jusqu'à maintenant, on se demandait quels étaient les quotas, puisque l'Europe veut qu'il y ait 30% de quotas européens sur ces plateformes. Et on savait pas si, une fois que l'Angleterre serait sortie de l'Europe, elle serait soumise également à cette directive. Il se trouve que oui, elle va continuer à appliquer cette règle. Donc 30% des catalogues d'Apple TV Plus, de Disney Plus seront donc soumis en Angleterre à la directive européenne. Ce qui veut dire que les productions anglaises pourront rentrer dans ce quota des 30%. Ce qui est probablement une bonne nouvelle, notamment pour Disney, dont le siège européen est basé en Angleterre, et donc qui va pouvoir s'appuyer sur la législation anglaise pour, à l'intérieur de Disney+, avoir ces 30% de quotas européens.
Zoé.
Oui, mais effectivement, c'était ce que j'allais dire, et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que toutes ces mauvaises nouvelles dont moi j'ai parlé sont pondérées par le fait qu'effectivement, en matière fiscale, l'Angleterre a les mains encore plus libres qu'elle ne l'avait avant. Donc il y a pas mal, probablement, de secteurs, y compris la culture, où va y avoir effectivement une espèce de ligne de la fameuse liberté que la Grande-Bretagne, que l'Angleterre revendiquait. Mais voilà, c'est un espèce de double moment. Néanmoins, ça marche effectivement pour les films, parce que c'est extrêmement... Et nous, c'est un vrai problème aussi pour la France, parce qu'on perd ce partenaire qui était le partenaire anglophone de la lingua franca, donc c'est évident que c'est quelque chose qui va aussi probablement impacter la France, avec des tournages qui étaient entre les deux pays pour des films qui sont tournés en anglais, de type James Bond, on se rappelle des scènes de la Seine. En revanche, c'est vrai sur effectivement quelques endroits comme le cinéma, mais pas tellement d'autres, c'est-à-dire que ça ne marche que sur une certaine forme d'économie culturelle, on l'a dit, pour ce qui est en fait du très gros et du gros, les musées, les grosses institutions lourdes, là pour le coup, il y a quand même de vraies craintes.
Et puis à ce stade, un Boris Johnson qui n'est pas connu pour être un grand défenseur de la politique culturelle.
Non,
mais
clairement
c'est
pas.
C'est un autre débat qu'on aura sans doute dans les semaines à venir. Je vous propose, dans ce débat global, disons, sur le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, un focus un peu particulier sur une des composantes, un des pays de cet ensemble, pour l'instant tout à fait à l'intérieur du Royaume-Uni, à savoir l'Écosse.
Moi, j'ai habité à Glasgow quand cette ville est devenue capitale urbaine de la culture et c'était magique. Presque toujours le lendemain, il y avait des théâtres absolument partout, des clubs de musique. Même je me souviens littéralement, il y avait plein de cafés un peu à l'européenne et j'ai vu des amis écossais qui étaient étonnés de voir des croissants, mais vraiment dans leur café. Et je n'exagère pas, c'était vraiment magique et cette ville a gardé cet héritage culturel parce que le centre-ville a été complètement rénové, les théâtres ont été rénovés avec de l'argent européen et nous maintenant, les Britanniques, on se prive de ça.
À l'instant, Stephen Clark, écrivain britannique, qui revenait sur les conséquences concrètes du Brexit sur la culture. C'était un entretien diffusé sur France 24 le 31 janvier dernier par Louise Dupont. Avec nous en direct, Mathieu Boisseau de France 2. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Vous étiez à Glasgow, vous étiez en Écosse vendredi soir, donc à 23h précisément. Quelle était l'ambiance dans cette ville et dans cette région?
Oui, bah, puisqu'on parle de culture, il y avait de très nombreux concerts de cornemuse, ça je peux vous le dire, parce qu'ils accompagnent toutes les manifestations des anti-Brexit. Il y en avait quasiment dans chacune des principales villes de l'Écosse. Faut pas oublier que l'Écosse a voté à 62% contre le Brexit en 2016. Et donc, c'est une forme d'îlot de résistance au Brexit à l'intérieur du Royaume-Uni, avec aussi l'Irlande du Nord, mais dans une moindre mesure. Et les Écossais ont vraiment envie de résister au Brexit et de faire en sorte de réintégrer l'Union européenne.
Ce qui passe par une sortie éventuelle du Royaume-Uni.
Exactement. Donc, en ce moment, on assiste à la fin de l'Union européenne telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire avec le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne. Et la deuxième conséquence, c'est peut-être de se dire qu'on assiste à la fin du Royaume-Uni tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça pose des questions diplomatiques, politiques absolument énormes. En Écosse...
Quels sont les fondements, les raisons de ce rejet? Elles sont à la fois identitaires, culturelles, mais aussi économiques.
Oui, alors on va commencer par l'économie. L'économie écossaise est absolument portée par l'Europe. L'agriculture, 70% des moutons écossais s'exportent en Europe. 90% du whisky écossais s'exporte en Europe. À Édimbourg, énormément d'employés, des commerces. J'ai été dans un salon de thé, par exemple, avec une patronne qui m'expliquait que la moitié de ses salariés viennent de Roumanie, de Pologne, de France aussi. L'Écosse traverse une crise démographique très importante. En 2041, je crois que la différence entre les
actifs et les...
Exactement.
Et les retraités.
Il manquera presque 200 000 travailleurs.
Donc ils ont un autre rapport à l'immigration, par exemple.
Voilà. Et là, on rejoint la deuxième question, à savoir l'identité, les valeurs. Les Écossais ne se reconnaissent plus dans le Royaume-Uni d'aujourd'hui. Le Royaume-Uni d'aujourd'hui, dominé par des discours anti-immigration, les Écossais, en tout cas pour leur grande majorité, ont une politique et une opinion très différente sur cette question-là. Ensuite, oui, il y a l'identité. Moi, j'ai été très surpris par le fait que les Écossais me disaient souvent, vous savez, on se sent évidemment d'abord écossais, mais ensuite plus européen que britannique. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai même des gens qui m'ont dit, vous savez, la plus vieille alliance du monde, c'est celle de l'Écosse avec la France. Je dois avouer que j'ai dû faire quelques recherches pour retrouver la chronologie exacte. Bon, c'est à peu près dans les années 1200, la Old Alliance. Et les gens vraiment sont attachés à ces partenariats avec différents pays européens et notamment avec la France.
Non, mais sur effectivement l'identité culturelle écossaise, tout ça rejoint aussi des problématiques historiques bien plus larges. L'Écosse, l'intégration de l'Écosse dans le Royaume-Uni est quand même le fruit d'une extraordinaire violence entre les deux pays, et notamment une forme d'assassinat culturel de l'Écosse telle qu'elle existait avec ses clans, etc., par l'Angleterre. Et par ailleurs, effectivement, et économiquement et du point de vue de l'identité, l'Écosse c'est probablement l'une des régions, quand on a parlé de cette fameuse européanisation, régionalisation dans la transformation de l'État-nation, l'Écosse c'est une des régions européennes qui a le plus profité ou joui en tout cas de l'Europe, avec notamment effectivement, et on l'entendait dans ce son, ce moment où l'Édimbourg est devenue capitale européenne de la culture. Je crois que ça a eu un effet économique très important aussi pour la ville.
Mathieu oui, Boisson.
50% des revenus des agriculteurs écossais proviennent de la PAC. C'est un chiffre qui dit beaucoup de ce que représente l'Europe pour l'Écosse. Et les Écossais disent que finalement, eux sont beaucoup plus attachés à cette identité européenne que les Anglais, puisque c'est de cette opposition-là vraiment
Alors,
qu'on
que
parle.
Que peut-il se passer maintenant en termes de référendum, en termes politiques ?
Alors, vous avez une première ministre, Nicola Sturgeon...
Qui a parlé tout de suite.
Ouais. Qui a parlé tout de suite et qui parle d'ailleurs depuis longtemps, longs mois et qui ne cesse de répéter la tenue d'un référendum sur l'indépendance. Elle veut son référendum dès cette année. Simplement, il lui faut pour ça l'accord de Boris Johnson. Et Boris Johnson, il a absolument pas envie de repartir dans un débat qui pourrait tourmenter le Royaume-Uni en 2020. Je pense qu'il a plutôt envie de tranquillité. Néanmoins, la bascule est en train de s'opérer dans l'opinion public. Là, il y a un dernier sondage qui donne pour la première fois depuis très longtemps le camp indépendantiste en tête. Donc, est-ce que la pression populaire va faire plier Boris Johnson ? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. En tout cas, en 2014, les Écossais avaient déjà voté sur l'indépendance et le non l'avait emporté à 55%. Simplement, c'était avant le Brexit. Brexit en 2016. Le premier référendum en 2014 sur l'indépendance. Et lors de ce vote de 2014, beaucoup d'Écossais avaient dit non à l'indépendance parce qu'ils voulaient rester dans l'Union européenne. Donc les problématiques et les rapports de force se sont totalement inversés. Et donc il va falloir suivre ça dans les prochains mois.
Emmanuel Paquette, pour terminer sur cette séquence d'actualité, face à tout ça, comment l'Europe, comment l'Union européenne se débrouille ? Cas concret, le livre blanc sur l'intelligence artificielle, où là on a observé une forme d'aller-retour complexe de Bruxelles tout récemment par rapport au moratoire sur la reconnaissance faciale.
Exactement, puisque dans ce livre blanc qui est attendu pour le 19 février, la pierre angulaire de l'intelligence artificielle, et ce qui est extrêmement attendu par tous, c'est la régulation ou non des systèmes de reconnaissance faciale, et notamment sur la voie publique, dans le domaine sécuritaire, puisque c'est là où ça pose le plus de questions, quand on voit les applications qui sont faites pour ce genre de technologie en Chine, par exemple, pour contrôler la population avec le système de notation dont on a déjà parlé dans cette émission. Donc l'idée, c'était de savoir, dans ce livre blanc, est-ce que ce livre blanc dira oui ou non à la reconnaissance faciale ? Il y a eu déjà une première esquisse de ce livre blanc qui, dans lequel apparaissait un moratoire de 3 à 5 ans sur cette technologie. Ça suivait même quasiment les recommandations de Sundar Pichai, donc le PDG de Google et d'Alphabet, qui disait c'est une technologie très sensible et s'il le faut, prenons notre temps, mettons toutes les questions à plat, les questions d'ordre sécuritaire, les questions de citoyenneté,
d'ordre éthique
et de savoir quel arsenal on peut mettre en place pour contrôler l'utilisation éventuelle de cette technologie dans la sphère publique. Et là, la semaine dernière, donc Reuters a dit avoir eu accès à la dernière version de ce livre blanc, dans laquelle le moratoire a été finalement exclu, a disparu. Donc il est fort probable que la reconnaissance faciale puisse venir en Europe assez rapidement. C'est un peu la position de la France, qui, via son ministre Cédric O, le ministre du numérique, veut faire des expérimentations sur le territoire français dès cette année. Alors aujourd'hui, visiblement, il y a 4 axes sur lesquels travaillerait le législateur pour faire des expérimentations. Le premier axe, c'est la gestion des flux avec la reconnaissance faciale. On parlait tout à l'heure du rugby, donc l'idée, c'est comment vous accédez rapidement à un événement sportif en ayant payé par exemple en ligne votre billet, et lorsque vous payez votre billet, on reconnaît votre visage et vous avez plus qu'à passer directement dans un stade sans avoir à faire poinçonner votre ticket. Donc ça permet de fluidifier le trafic autour des événements. Donc ça, la France aimerait bien le mettre en place pour les JO de 2024, puisqu'en France, on a quand même des grandes entreprises spécialisées autour de ces technologies, Thales, Idemia, Gemalto. Et donc ça peut être une vitrine technologique importante pour la France de dire, bah, nous, on arrive à fluidifier le trafic, notamment aux JO. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'encadrement du marketing. Alors là, les applications peuvent donner un peu le vertige, parce que l'idée, c'est vous vous promenez dans un magasin. On voit, Frédéric, que vous avez quelques rides qui apparaissent au coin des yeux et hop, on vous affiche une petite publicité pour une crème hydratante, une crème anti-ride. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, notamment sur vous, mais en général sur cette technologie.
Et donc ça, c'est un cas.
Un cas parmi d'autres.
Voilà, parmi d'autres.
Exactement. C'était purement hypothétique. Après, il y a un troisième axe qui est l'axe sécuritaire.
Alors vous avez la voix, vous mettez à tousser, on vous propose des médicaments.
Par exemple, à base de bananes plantains, c'est ce que vous prenez.
Pour tenir jusqu'à la fin de cette émission.
Donc le troisième axe, c'est l'axe sécuritaire dont on parlait précédemment. C'est alors reconnaître un terroriste, par exemple, dans un aéroport ou dans un lieu public via un système de caméras intelligente. Et puis le quatrième qui vient juste d'être ajouté comme un axe de recherche, c'est la médecine et le social, parce qu'en fait on s'est rendu compte que la reconnaissance faciale permet de déterminer et de voir, de prédire certaines maladies, notamment des maladies génétiques, en fonction du visage et des points sur votre visage. Que en fait les médecins peuvent s'appuyer là-dessus pour voir qu'une maladie peut apparaître chez vous dans les années qui viennent. Donc il y a une fonction de reconnaissance faciale dans la médecine et dans le social. Là, il y a deux cas d'application. C'est un enfant qui est perdu, retrouver un enfant perdu. Ça s'est déjà vu dans certains pays dans lesquels la reconnaissance faciale a été utilisée pour ça. Ou des personnes âgées atteintes d'Alzheimer qui peuvent se perdre dans la rue. Si la famille a donné l'autorisation, on pourrait retrouver plus facilement cette personne. Donc, ces quatre cas-là vont être visiblement expérimentés. Enfin, on va le voir en tout cas en France. Et ils vont tirer de ça des conclusions pour savoir quel type d'algorithme on peut autoriser, ceux qu'on peut rejeter en fonction des cas éthiques et des questions d'ordre sociétal que ça peut poser.
Sur l'ensemble de ces questions européennes, Didier Fusillier, vous êtes président de l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette et notre invité ce soir, mais avant d'en venir avec vous au sujet qui nous occupe et au microfolie, peut-être une réaction à tout ça ?
Oui, nous travaillons beaucoup avec des artistes effectivement anglais. C'est intéressant parce que la question va être aussi de savoir ce que va faire le British Council. Parce que on sait la puissance qu'avait le British Council pendant une certaine époque dans le monde entier pour justement permettre aux artistes de voyager, de produire. C'est retombé à quasiment zéro aujourd'hui, c'est-à-dire le British Council n'existe quasiment plus, en tout cas en aide pour les structures européennes.
Oui, parce que c'est essentiellement un lieu où on apprend l'anglais,
maintenant,
qui a été délégué de manière un peu marketing pour s'autofinancer en réalité.
Voilà, c'est ça, alors que pendant toute une période, on allait au British Council et on avait franchement des moyens très forts qui nous permettaient d'inviter notamment tous les jeunes artistes, tous les chorégraphes qu'on a vu naître, ont bénéficié de ça. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça s'est substitué, vous le disiez, par Creative Europe, par les plans Interreg où il fallait trois pays et l'Angleterre était très forte là-dessus. Mais la question maintenant, c'est pour les jeunes artistes, comment ils vont se passer? Effectivement, vous avez raison, coûter beaucoup plus cher, il va falloir des visas, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il va falloir. Mais enfin, on sait que ce sera plus compliqué.
Bien, ben merci pour tout ça, pour cette actualité et pour conclure cette séquence d'actualité en forme d'hommage, d'ailleurs un peu chagrin à l'Europe, une Europe moins hardie, mais peut-être plus décidée à rester unie. Un extrait de l'ode ou l'hymne à la joie de Beethoven dans la version d'ailleurs Carl Baum, Jesse Norman, Placido Domingo, Orchestre Philharmonique de Vienne. Beethoven qui est justement à l'honneur ce week-end de la folle journée de Nantes, 26e édition. Succès important déjà jusqu'à aujourd'hui, 250e anniversaire de Beethoven fêté donc à Nantes où les 9 symphonies et les 5 concertos ont été joués, donnés dans ce qui est désormais un des événements français importants de la musique classique. D'ailleurs Didier Fusillier, comment on explique le succès de la folle journée de Nantes ?
Ça, c'est quasiment un mystère quand même. Enfin, là, on a annoncé 140 000 personnes en un week-end pour écouter Beethoven.
Depuis mercredi,
oui. Depuis mercredi, oui. Enfin, je crois que c'était surtout vendredi, samedi, où on a eu vraiment une fréquentation jamais connue. Ça montre effectivement, c'est le phénomène de Nantes aussi, hein, Nantes qui a créé une dynamique très très spéciale.
Sur rapport à la culture.
Par rapport à la culture. Mais eux ont commencé quasiment avant tout le monde. Voilà, ça fait très longtemps qu'il y a cette appétence aussi du public nantais pour la musique, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est beau de voir des succès de cette ampleur.